C'est l'heure du journal avec Anne Fauquemberg. Bonsoir Anne.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Pas de préjudice d'anxiété pour les anciens mineurs de fer de Lorraine. La cour d'appel de Nancy vient de débouter 10 d'entre eux infirmant à un jugement des prud'hommes. Nous entendrons le témoignage d'un de ces mineurs, puis nous verrons avec Aurélie Kiefer que ce droit récent du préjudice d'anxiété est difficile à faire valoir. L'Europe face à sa crise existentielle. Au sommet de Bratislava, les 27 tentent de retrouver du souffle. Une feuille de route a été soumise cet après-midi aux dirigeants de l'Union européenne. Priorité donnée à la construction d'une Europe de la défense. Nous serons en direct avec notre envoyé spécial Quentin Dickinson. Il était l'homme de la fierté retrouvée pour les Italiens. L'ancien président du pays, Carlo Azeglio Ciampi, est décédé. Président interventionniste et artisan de l'entrée dans la zone euro, Mathilde Imberti va nous appeler de Rome. Alors que les États-Unis et la Russie s'accusent de bloquer l'application de l'accord de cessez-le-feu signé la semaine dernière, le Conseil de sécurité examine ce soir ce texte censé relancer le processus de paix en Syrie. Sur le terrain, il y a toujours des combats à l'est de Damas et les convois humanitaires sont bloqués à la frontière turque. Enfin, Washington qualifie le français Omar Diaby de terroriste international. Il est considéré comme le principal recruteur pour le djihad et c'est le thème ce soir de l'enquête du service investigation de Radio France. En Lorraine, c'est une décision de justice difficile à comprendre pour 10 anciens mineurs de fer. Ils viennent d'être déboutés par la cour d'appel de Nancy de leur demande de reconnaissance de préjudice d'anxiété pour les effets sur leur santé du travail au fond des mines et la condamnation de leur mine, l'exploitant. En février 2015, le conseil des prud'hommes de Longwy leur avait pourtant donné raison et accordé à chacun 4 500 € au titre de ce préjudice. Décision donc infirmée aujourd'hui. Les mineurs défendus par la CFDT annoncent que leur combat n'est pas terminé et qu'ils vont se pourvoir voire en cassation. Henri Ivankovski est l'un d'entre eux.
Le scandale des mineurs, des mines, il continue. Mais bon, nous, on va pas s'arranger de ce revirement-là qui vient d'avoir lieu. Il y a le reniement des exploitants. Ils pourront s'en réjouir. Mais aujourd'hui, qu'ils ne se réjouissent pas trop rapidement, ces mineurs de fer, sont malgré tout des êtres humains qui ont été donc contaminés par ces produits dans des lieux qui étaient des vrais cul-de-sac, des cages d'empoisonnement, et que finalement, il ne faudra pas que l'exploitant s'en sorte d'avoir brisé ces mineurs qui étaient courageux et qui restent courageux. Donc oui, la cassation s'impose.
Des propos recueillis par Clément Lullier de France Bleu Lorraine Nord. Bonsoir Aurélie Kiefer.
Bonsoir.
Le préjudice d'anxiété est un droit qui reste difficile à faire valoir.
Oui, tel qu'il a été défini par la Cour de cassation en 2010, le préjudice d'anxiété concerne une population exposée de façon fautive à un risque mortel. Il faut donc prouver d'une part l'exposition à des substances dangereuses et d'autre part la faute de l'employeur. Le terme d'anxiété peut sembler subjectif et s'il était utilisé à tout va, on imagine bien les excès auxquels cela pourrait mener, les conséquences économiques pour les entreprises qui auraient à verser ces dommages et intérêts. Pour l'avocat Jean-Paul Tessonnière, c'est sans doute ce qui a entraîné un raidissement de la jurisprudence.
Il y a la volonté actuellement de la Chambre sociale de la Cour de cassation de restreindre l'accès à quelque forme que ce soit du préjudice d'anxiété. Elle le fait pour les travailleurs de l'amiance qui n'ont pas travaillé dans des installations classées, mais dont on sait qu'ils ont été exposés à des risques mortels extrêmement importants. Il y a une lecture très restrictive de la jurisprudence du 11 mai 2010 sur le préjudice d'anxiété. Et donc on est dans cette situation, dans cette tendance-là qui est défavorable à la reconnaissance du préjudice d'anxiété. Et j'ai l'impression que ces dossiers des mineurs, qui est spécifique, qui ne ressemble pas aux autres dossiers dans lesquels le préjudice d'anxiété est demandé, subit un petit peu le lot commun de cette résistance des hautes juridictions à accorder ces dommages intérêts.
Il faut tout de même retenir la victoire cette année des mineurs du charbon de Lorraine. En juin, à Forbach, la justice prud'homale leur a donné raison. Elle a condamné Charbonnage de France à verser 1 000 € de dommages et intérêts à 786 mineurs. L'entreprise a fait appel, les salariés aussi. Ils estiment que leur santé vaut un peu plus que ça.
Merci Aurélie Kiefer pour votre éclairage sur ce droit récent du préjudice d'anxiété. En proie à de profondes divergences après le Brexit, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne tentent ce vendredi de redonner de l'élan au projet européen. Mais le ton est grave au sommet de Bratislava en Slovaquie. La chancelière allemande a parlé ce matin de situation critique. Le président Hollande a évoqué des risques de dislocation. Tout à l'heure, le président du Conseil européen Donald Tusk a présenté une feuille de route aux 27. Bonsoir Quentin Dickinson.
Bonsoir Anne, bonsoir à tous.
Vous êtes en direct de Bratislava. Priorité semble être donnée à la défense. Il faut dire que le départ du Royaume-Uni, qui a toujours privilégié le cadre de l'OTAN, ouvre de nouvelles perspectives.
Avec le Royaume-Uni dans l'UE, c'est vrai, c'était comme si vous tentiez de rouler avec le frein à main à moitié serré. Et nulle part davantage était-ce vérifiable que dans le domaine militaire. Alors, le départ des Britanniques ne signifie pas pour autant la création immédiate d'une armée européenne. Les problèmes de structure, d'approvisionnement, de règles d'engagement restent nombreux, mais incontestablement, une logique nouvelle est à l'œuvre. Celle-ci devra notamment réduire la bien trop grande variété de systèmes d'armement conçus et produits par les Européens. Trois modèles de chasseurs-bombardiers, tous concurrents, tout comme le sont les trois modèles de chars d'assaut lourds, voilà qui engendre des marchés limités et donc des coûts de production élevés, sans compter que pas moins de 5 pays européens proposent à la clientèle des modèles équivalents de frégates. L'idée est de mettre en commun une partie significative du financement de la recherche et du développement militaire, tout en jouant sur l'exploitation duale, c'est-à-dire les prolongements civils de technologies militaires et inversement. Parallèlement, l'organisation opérationnelle de la défense devra s'aligner au niveau de quartiers généraux européens, condition de toute efficacité lors d'interventions extérieures. Les théâtres d'opération seront principalement les missions des Nations Unies, mais aussi dans l'environnement géographique immédiat de l'Union européenne que Washington a, de façon croissante, la propension de laisser aux Européens.
Merci Quentin Dickinson pour vos explications en direct de Bratislava. Et à Bruxelles, cet après-midi, la commissaire européenne à l'industrie a proposé que les 27 États membres de l'Union européenne émettent des emprunts obligataires pour financer ces projets en matière de défense. Comme une réponse à ce sommet de Bratislava au Royaume-Uni, les europhobes pressent leur nouveau gouvernement à sortir de l'Union européenne. Nigel Farage, à la tête du parti UKIP, fer de lance du Brexit, a été remplacé cet après-midi par la députée européenne Jan James. Alors, sans avoir la gouaille de son prédécesseur, l'ancienne porte-parole du parti partage ses idées, notamment sur la nécessité de mettre fin à l'immigration sur le continent européen. Bonsoir Antoine Gignot. Antoine Gignot.
Oui, la première attaque a été cet après-midi pour Theresa May, la première ministre affublée d'un surnom ridicule, accusée d'être un peu tarte et de voler les idées de l'extrême droite, tout en n'allant pas assez loin. Au total, 40 000 militants d'extrême droite ont voté pour élire Diana James, et à 56 ans, l'ancienne conservatrice ne cache pas son ambition. Elle veut faire de son parti la principale force d'opposition en 2020 pour forcer le gouvernement actuel à sortir définitivement et rapidement de l'Union européenne.
Jusqu'à ce qu'on ait une signature et que l'encre soit sèche, on en fait encore partie. Ils nous disent encore ce qu'on doit faire. Reprenez le contrôle. Oui à une sortie, une vraie sortie à 100% de l'Union européenne. Est-ce que je peux être plus claire ? Et oui à une politique d'immigration qui autorise l'entrée, quelle que soit leur origine, à ceux dont les capacités, l'expertise et les valeurs sociales correspondent à ce que veut ce pays.
Cette obsession de l'immigration, ce n'est pas une nouveauté. Il y a 3 ans déjà, Diana James avait dû présenter des excuses publiques après avoir, pendant sa campagne électorale, parlé de délinquance associée aux Roumains. C'est aussi une supportrice de Vladimir Poutine, un leader fort et nationaliste, dit-elle, un modèle. Mais pour lui ressembler, la députée européenne devra réussir à unifier les différentes factions de l'extrême droite britannique. Après le départ de Nigel Farage, l'ancien chef de file, très proche de celle qui lui succède, Nigel Farage qui est resté très discret aujourd'hui. Plusieurs élus l'accusent tout de même de rester dans l'ombre aux commandes du parti.
Précision, Antoine Gignot en direct de Londres pour France Culture. Le chef du gouvernement italien Matteo Renzi lui a rendu hommage depuis la Slovaquie. L'ancien président Carlo Azeglio Ciampi est décédé ce vendredi à l'âge de 95 ans. Il avait été à la tête de l'État de 1999 à 2006. Cet homme politique doté d'un aura et d'une autorité morale s'était beaucoup impliqué dans le projet européen. Mathilde Imberti nous appelle de Rome.
Carlo Azeglio Ciampi reste pour les Italiens l'artisan de l'entrée dans la zone euro. Arrivé sur la scène politique sur le tard, il passe la majeure partie de sa carrière à la Banque d'Italie. Il en est le gouverneur en 1979, l'année où la lire entre dans le système monétaire européen. Il contrôle les leviers de la politique monétaire et financière du pays et en homme d'État, il œuvrera sans relâche pour le respect des critères de convergence établis par le traité de Maastricht. Il vise la réduction du déficit public pour garantir l'accès de l'Italie à la monnaie unique. Homme de dialogue, Ciampi est appelé à la rescousse en 1993 pour prendre la tête d'un gouvernement technique de transition, alors que l'Italie se débat dans des affaires de corruption, que la classe politique de l'après-guerre sombre dans le scandale Manipulite. Il sera par la suite plusieurs fois ministre, avant d'être élu triomphalement en 1999 président de la République italienne. Un président interventionniste qui n'hésite pas à reprendre Silvio Berlusconi et à lui faire revoir sa copie sur certaines grandes réformes. Proche de la coalition de l'Olivier au centre-gauche, Ciampi séduit bien au-delà. Il était le président de la fierté retrouvée, selon une expression reprise dans la presse italienne ce soir. Une fierté qui passait pour lui par l'Europe. Si l'Italie joue encore un rôle important sur le continent aujourd'hui, c'est grâce à des hommes comme lui, a réagi Sergio Mattarella, l'actuel président italien.
Au Portugal, l'ex-premier ministre José Socrates se dit victime d'un abus de pouvoir. Il proteste contre la justice qui vient d'accorder un délai supplémentaire de 6 mois pour conclure l'enquête dans laquelle il est mis en examen. L'ex-premier ministre est poursuivi pour corruption, blanchiment d'argent et fraude fiscale aggravée. Il avait été remis en liberté en octobre dernier après avoir passé plus de 9 mois en détention provisoire. Le ministère public a notamment cité des démarches incomplètes dans le cadre des demandes de coopération internationale adressées à la Suisse et au Royaume-Uni. En Syrie, la trêve de 48 heures renouvelée une première fois mercredi est censée de nouveau être reconduite ce soir. La Russie s'est dit prête tout à l'heure à prolonger de 72 heures supplémentaires ce cessez-le-feu entré en vigueur lundi soir en accord avec les États-Unis. Dans la périphérie est de Damas néanmoins, des combats opposent depuis ce matin le régime aux rebelles de l'ancien front Al-Nosra qui n'est pas concerné par cette trêve, ce qui pose la question de la sécurité pour faire transiter les convois humanitaires. Une aide toujours bloquée dans une zone tampon entre les frontières turques et syriennes. À Beyrouth, la correspondance d'Omar Waman.
L'objectif de l'accord conclu entre Washington et Moscou il y a tout juste une semaine était de mettre fin au combat afin de permettre l'acheminement d'une aide humanitaire à près de 500 000 habitants vivant dans des zones assiégées. Il apparaît clairement que le plus difficile dans ce conflit n'est pas de faire taire les armes, mais bien de parvenir à mettre les belligérants d'accord afin de créer des conditions qui permettront aux convois de circuler en toute sécurité. L'urgence se situe à Alep, où 250 000 habitants des quartiers rebelles vivent en état de siège, coupés de tout. Les camions remplis d'aide humanitaire n'ont toujours pas reçu le feu vert pour parcourir les 50 km qui séparent la frontière turque de ce qui était avant la guerre la deuxième ville de Syrie. Des désaccords entre belligérants et des tirs sporadiques empêchent pour le moment ces camions de prendre la route. Au cœur des négociations, la route du Castello, un axe stratégique au nord d'Alep, contrôlé par le régime et par lequel l'aide humanitaire doit transiter. Cette route, qui est le dernier lien avec les habitants des quartiers rebelles, doit être démilitarisé. Or, le régime ne veut pas en perdre le contrôle alors que les rebelles accusent Damas de vouloir consolider ses positions. Le temps qui passe risque de mettre en danger cette trêve et avec elle l'espoir à terme d'une paix durable. Pour éloigner ce spectre de la guerre, une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies a été convoquée à New York.
Les précisions signées Omar Waman. Au Pakistan, un attentat suicide a fait au moins 16 morts et 35 blessés ce matin. Le kamikaze a déclenché sa charge explosive lors de la prière devant une mosquée située en zone frontalière de l'Afghanistan, un district dans lequel l'armée combat les talibans. Après le démantèlement d'un commando de femmes djihadistes la semaine dernière, 3 adolescents originaires de région parisienne ont été arrêtés et écroués ces derniers jours, des mineurs soupçonnés de vouloir commettre un acte terroriste. Ils étaient en contact via la messagerie Telegram avec un propagandiste de l'État islamique, Rachid Kassim, installé en Syrie. Bonsoir Élodie Guéguin.
Bonsoir.
Des jeunes Français pouvant être téléguidés par des recruteurs de Daesh, le phénomène n'est pas nouveau, mais tend à s'accroître selon les services de renseignement. Vous avez enquêté sur l'un de ces recruteurs, Fabien Klein, l'homme qui a revendiqué dans un message de propagande les attentats du 13 novembre.
Oui, et il est bien plus que le porte-voix français de Daesh. Il est le mentor de toute une génération de djihadistes. Son parcours est très étonnant. Fabien Klein est d'origine réunionnaise. Il grandit en Normandie dans une famille très catholique. Et à l'âge de 18 ans, il se convertit à l'islam. Sous son influence, tous ses proches font de même. Même sa mère, hein, qui est une prof de catéchisme. Fabien Klein ne cessera jamais de faire du prosélytisme. Et à chaque fois, son discours faisait mouche. Se souvient celui qui était l'un de ses meilleurs amis.
Il pouvait débattre avec un chrétien, il pouvait débattre avec un juif, il pouvait débattre avec un bouddhiste. À la fin du lot, franchement, il faut dire ce qu'il y a, il avait une éloquence qui pouvait retourner qui que ce soit, quoi.
Alors dans les années 2000, Fabien Klein s'installe à Toulouse et devient, selon les services qui le surveillent, l'un des leaders de la mouvance salafiste locale.
Et c'est là qu'il va rencontrer un tout jeune garçon qui, quelques années plus tard, terrorisera la France, un certain Mohamed Merah.
Alors Klein s'est toujours défendu d'avoir exercé une quelconque influence sur le jeune terroriste. Nous avons pourtant découvert une lettre montrant qu'il a pu être une sorte de conseiller, de guide spirituel pour Merah. Je vous propose un extrait de ce courrier, il date de 2009.
C'est vraiment une grâce d'Allah de nous avoir guidés à la vérité. Réjouis-toi de savoir que ton Seigneur a préparé un paradis immense pour ceux qui ont cru et accompli de bonnes œuvres.
Alors lorsque Merah abat froidement des militaires et des juifs, Fabien Klein est derrière les barreaux, condamné déjà pour une affaire de filière djihadiste. Et donc les juges qui enquêtent sur les attentats ne s'intéressent pas vraiment à lui. C'est ce qui met en colère Samia Maktouf, avocate de victime. Au moment de l'affaire Merah, elle avait déjà demandé au juge d'auditionner Klein.
Je l'ai demandé, ça m'a été refusé. On a considéré que c'était pas une priorité. Aujourd'hui, on se rend compte que c'était plus qu'une priorité. Il n'y a pas une seule affaire terroriste que la France ait connue sans que l'ombre de Fabien Klein ne soit pas présent.
En tout cas, son nom revient dans plusieurs affaires et dans celle du 13 novembre, il a sans doute joué un rôle plus important que celui de simple porte-voix. C'est la conviction de Jean-Manuel Escarnot, le correspondant du journal Libération à Toulouse.
Fabien Klein, il ne se contente pas de traduire un communiqué, de le lire avec sa voix pleine d'emphase pour nous expliquer comment s'est organisé les attentats du 13 novembre. C'est certainement, selon la DGSE et la DGSI, l'un des commanditaires de ces attentats du 13 novembre.
Et on sait où il se trouve aujourd'hui, Fabien Klein.
Alors il a été repéré il y a quelques mois au nord de la Syrie avec son frère Jean-Michel. Les Klein ont reconstitué une communauté avec leurs anciens amis de Toulouse et avec notamment le beau-frère de Mohamed Merah.
Merci Élodie Guéguin. Votre enquête est à écouter en intégralité demain dans l'émission Secret d'Info sur France Inter à 13h20 et à lire sur notre site internet franceculture.fr. Près de 2000 migrants évacués d'un campement parisien ce matin. Ils étaient installés avenue de Flandre dans le nord de Paris. Des hommes et quelques familles venues principalement d'Afghanistan, du Soudan et d'Érythrée. 70 bus étaient prévus. Une évacuation qui a duré 5 heures et s'est déroulée dans le calme, Alice Serrano.
Le calme et le soulagement, certains trempés par la pluie, affichaient un sourire en montant dans le car.
Je suis content car il pleuvait ici et je veux aller dans un endroit sûr.
Where do you come from?
On vient d'Afghanistan où il y a beaucoup de problèmes.
À côté du personnel de la préfecture d'Île-de-France chargé de leur évacuation, Radia, bénévole pour l'association Une Chorba pour tous.
Je pense bien que c'est le seul-là. Ils veulent tous partir, mais ils veulent partir se retrouver dans un endroit potable. C'est pas des maisons, ça. C'est des baraques, même pas des baraques. C'est des cartons, c'est des tôles.
Radia montre du doigt les matelas, les chaises, les bâches laissées à l'abandon sur le terre-plein de l'avenue de Flandre et qui ont servi d'abri à près de 2000 personnes. Aujourd'hui, ces personnes vont être installées dans une soixantaine d'hébergements d'urgence répartis en Île-de-France. Mais par manque de place, certains migrants finiront dans des gymnases ou des hôtels ou encore ici même dès ce soir.
Donc vous pensez qu'il va y avoir d'autres personnes qui vont revenir ?
C'est évident. Donc ici, par exemple, c'est un campement essentiellement afghan, mais il y a aussi du coup d'autres nationalités, des Soudanais, des Érythréens qui sont ailleurs en fait, qui sont quand même dans la rue et qui vont venir et qui vont se regrouper, reformer un campement, etc.
On voit d'ailleurs revenir de jeunes hommes par petits groupes, à peine les bus partis, confirmant les propos de ce riverain. Car des campements, il y en a d'autres, il y en a beaucoup d'autres à deux pas d'ici, où vivent entassés des familles avec de jeunes enfants.
Le reportage d'Alice Serrano. Aux États-Unis, Donald Trump reconnaît que le président Barack Obama est né aux États-Unis. Le candidat républicain à la Maison-Blanche met ainsi fin à une polémique complotiste qui date de la première campagne présidentielle du président américain et que Donald Trump avait alimenté avec entêtement. Les marchés européens inquiets par l'annonce d'une amende record de 14 milliards de dollars réclamée par la justice américaine à la Deutsche Bank pour mettre fin à un litige immobilier. Paris et Francfort ont accentué leurs pertes à la mi-journée en passe d'accuser leur plus fort recul hebdomadaire en 3 mois. La somme demandée par les États-Unis pourrait mettre en péril l'institution financière et déstabiliser les marchés financiers. Un Français sur 4 doute de la sécurité des vaccins. Selon une enquête internationale publiée la semaine dernière, la France est le pays européen où il y a le plus de réticence face à la vaccination. C'est pourquoi une consultation citoyenne est ouverte à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 13 octobre. C'est sur Internet à l'adresse contrib.com. concertation-vaccination.fr, initiative du ministère de la Santé qui fait suite à 2 enquêtes d'opinion dont les résultats n'ont pas encore été rendus publics. La météo de votre samedi, l'alerte orange a été levée dans le Gard et l'Hérault. Demain, la France sera coupée en deux sur une diagonale allant de Caen à Nice. Alternance de nuages et éclaircies à l'ouest, des pluies éparses à l'est de cette ligne. Les températures, elles iront de 19 à Lille à 25 à Ajaccio.